Alors ce soir, on va parler de choses qui fâchent encore, bien sûr, parce que je crois qu'il faut vraiment qu'on comprenne comment tout ce système a pu se mettre en place sous nos yeux, sans qu'on s'en aperçoive. Comment tous ces gens ont pu prendre le pouvoir sur nous, sans qu'on s'en aperçoive non plus. C'est tellement énorme, en fait, on a du mal à imaginer comment ils s'y sont pris pour faire tout ça, en fait. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit rappel des faits. Ça vaudra ce que ça vaudra parce que c'est ma vision des choses et je pense ne pas être très loin, mais ça va être beaucoup plus élaboré que ça pour les gens qui connaissent très bien la fraude du nom légal, qui connaissent très bien la fraude du nom, comment l'entreprise de la France est devenue une entreprise, hein, comment l'Élysée est une entreprise. Vous pouvez tous aller chercher sur. Pardon? Non, pas sur LinkedIn, non. Tu me perds, tu me perds. Non, pour aller chercher sur société.com, en fait, tout simplement, vous allez vous rendre compte que, eh bien, tout n'est que société, en fait. Hein. Rien, tout est là pour gagner de l'argent, en fait. La France est devenue une société, en fait. Voilà. Alors, comment ça commence tout ça? Bien, en 1730, la franc-maçonnerie comptait 60 loges en France. Attention, 1730, hein. Avec 3000 frères de la Truelle. En 1789, 620 loges, dont déjà des loges féminines, avec près de 20 000 frères et sœurs de la Truelle. Et la France, jusqu'en 1789, est sous une monarchie de droit divin. La monarchie de droit divin, c'est un régime politique de monarchie absolue, dans lequel le pouvoir du souverain est légitimé par la volonté de Dieu, donc, et par filiation. La monarchie française est vraiment de droit divin. Selon saint Paul, toute autorité lui vient de Dieu. Alors vous allez me dire, mais comment on est passé du droit divin à la république? Alors on a eu d'abord le 13 septembre 1791, qui fut la constitution élaborée par les membres de la constituante, et Louis XVI n'a pas eu d'autre choix que de faire passer la France d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnel. Et c'est le 11 juillet 1792 que Danton a crié, proclamé à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée à l'époque, la patrie est en danger. La Constitution française du 3 septembre 1791 est la première expérience d'un régime libéral en France. Et elle est apparue en période révolutionnaire et elle a institué à ce moment-là une monarchie constitutionnelle. Ce texte, promulgué 2 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles de Constitution de 1789, est la première constitution écrite qui transférait la souveraineté du roi à la nation. L'Assemblée constituante de 1789, ou l'Assemblée nationale constituante, a été la première assemblée constituante française, instituée par des députés des États généraux, qui se sont érigés d'eux-mêmes en une assemblée nationale le 17 juin 1789. Alors c'est la date qu'on retient comme celle de la naissance du système représentatif français. Mais il s'est passé plein de choses. L'objectif de la Constitution 1791 est résumé dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Ainsi, l'objectif est la mise en place d'un État libéral qui respecte et garantit les droits individuels des citoyens. Ces droits ayant été annoncés par la Constitution dite sociale. Les gens faisaient du social. Cet objectif, qui ne peut être réalisé que si il est assuré en parallèle une limitation du pouvoir par le pouvoir. Cette phrase est très importante. Il peut être réalisé que si est assuré en parallèle une limitation du pouvoir par le pouvoir, c'est de Montesquieu, c'est-à-dire une séparation des différents pouvoirs déterminée dans la Constitution dite politique. Et afin d'entériner l'équilibre entre les pouvoirs du roi et les organes de contrôle, d'entériner aussi les droits garantis aux citoyens, une Constitution écrite jugée par les révolutionnaires plus rigide qu'une Constitution coutumière a été rédigée. Bref, un coup d'État, une prise de pouvoir ou comment les francs-maçons ont pris le pouvoir en activant la sacro-sainte séparation des pouvoirs, c'est-à-dire en séparant l'homme de l'être humain, donc de son droit divin. Nous sommes donc passés de sujet à citoyen par une limitation du pouvoir par le pouvoir, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs, je vous relis la phrase déterminée, n'a point de constitution. Et cet objectif qui ne peut être réalisé que si est assurée en parallèle une limitation du pouvoir par le pouvoir. Alors, ce siècle, dit le siècle des Lumières, est passé d'une société à une société secrète, avec la chimie, l'occultisme, la magie, et puis un courant philosophique avec des partis politiques, et enfin à gangréner la société française à tous les étages par des conflits d'intérêts, des prises de pouvoir, des corruptions autorisées par les protections qu'offrent les loges, détruisant petit à petit notre pays, notre morale, notre force vitale, parce qu'ils représentent désormais le plus grand danger pour notre pays. 8 affaires plus ou moins connues du grand public font ressortir la pénétration et l'action déterminante de la franc-maçonnerie dans le déclenchement de la Révolution française et de toutes ses conséquences. Un très vieux livre que j'ai trouvé nous raconte la naissance des loges maçonniques qui sont nées avant 1759, qui se nomme la loge des 9 sœurs. Et il y a un sceau d'ailleurs de la loge des 9 sœurs. L'original est conservé au musée Carnavalet. L'estampe emblématique des règlements de la loge a été dessinée par Noté et gravée par Godefroy. Je vous mettrai bien sûr ce livre en lien, en PDF, à la fin de la vidéo. Donc la franc-maçonnerie exige des hommes qu'elle reçoit dans son sein. C'est une partie du livre à la fin. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je ne vais pas en lire très long, mais c'est très intéressant. La franc-maçonnerie exige des hommes qu'elle reçoit dans son sein l'observation des principes de la morale. Et quelle morale ? Elle leur recommande la bienfaisance, monsieur. Surtout pour eux d'abord, en premier, servons-nous les premiers. Mais elle reste indifférente aux opinions religieuses et métaphysiques qu'ils ont adoptées. Et ne leur en fait jamais un titre d'exclusion. Les 9 sœurs après la Révolution, eh bien, la pure doctrine consignée dans le Book of Constitutions de 1723, par les fondateurs de la franc-maçonnerie moderne, doctrine à laquelle le Grand Orient est devenu celui-ci en 1877. Un passage, le vénérable Garnier-Pagès, qui va durer 2 ans, puis à la suite de la révolution de juillet, la loge va se mettre en sommeil. Garnier-Pagès, suite à ça, a été élu député de l'Isère, à la fin de cette même année. Et au moment où il a atteint l'âge de 30 ans, eh bien, il est allé s'asseoir au Palais Bourbon, à l'extrême gauche, et dès qu'il a abordé la tribune, il est devenu chef de l'opposition républicaine. Bien faible dans la chambre, mais ayant de nombreux adhérents au dehors. La loge des 9 sœurs se réveille ensuite pour une seconde fois, après 6 ans de sommeil, et elle a tenu une séance solennelle de réouverture le 10 décembre de l'année 1836 sous la présidence de Léon de Lagrange, devenu à son tour le grand vénérable. Et là encore, il s'est tenu dans une tenue digne de l'ancienne tradition. Le buste de Voltaire, bien placé au milieu du temple, évoque les glorieux souvenirs du XVIIIe siècle et offre un juste tribut d'éloge aux œuvres immortelles des grands hommes qui l'ont illustré. La loge avait pour secrétaire un franc-maçon éminent, premier juge à l'époque. Déjà, les juges étaient dedans. Il avait signé le manifeste de 1828 du secrétaire et se trouvait un secrétaire qui se trouvait être le vénérable, important, de la loge Clémente Amitié. En cette dernière qualité, il prononça une allocution pour faire ressortir un esprit du pacte d'affiliation. On parlait déjà du pacte, hein, vous avez beaucoup de pactes, ils font beaucoup de pactes, hein, sans nous évidemment, hein, mais contre nous par contre. Hein. donc du pacte d'affiliation conclu entre deux loges, disant que, fortes de la pureté de leurs intentions, de celles des doctrines qu'elles préconisent et enseignent, elles travailleront sans cesse, d'un commun accord, au grand but de la maçonnerie, la régénération morale. Il faut l'entendre, hein, ça, quand même. La régénération morale. En clair, il va falloir qu'on pense autrement, qu'on agisse autrement, selon leur doctrine à eux. Je crois qu'on y est, je crois que nous y sommes. Hein. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour comprendre l'état de gangrène de notre pays et de la planète entière d'ailleurs, il faut comprendre comment ils ont œuvré dans le noir, tous ces maçons, tous ces frères de la truelle, qui bâtissent par le copinage, qui émettent aussi de nombreuses alliances à tous les niveaux, juges, police, armée, justice, monde médical. Ils ont tout infiltré. Et surtout, ils ont créé ce monde déviant. Ils ont permis de nombreuses non-condamnations depuis des années dans tous les domaines. Et ils modifient les lois à leur guise, non pas pour nous, mais pour eux. Se protégeant ainsi de toute leur déviance et de toute leur magouille, permettant un complot contre nous, le peuple, jour après jour. Oui, parce que les comploteurs, ce sont bien eux. Et ce complot que vos merdias dénonce envers tous les lanceurs d'alerte, envers tous ceux qui osent s'élever contre ce système jour après jour, a été enclenché par toutes ces sectes maçonniques qui vont jusqu'au sommet de l'État. George Sand, un jour, a écrit et a attribué aux sociétés secrètes, franc-maçonnes, l'origine du slogan révolutionnaire « Liberté, égalité, fraternité » qui était usuel dans les loges du Grand Orient. Puisque même George Sand était dans une loge maçonnique. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'en arrive à l'affaire Duhamel, avec les révélations de Camille Kouchner des viols de son frère par son beau-père, Olivier Duhamel. Et dans les mêmes temps, une autre affaire grave de viol, de pédophilie, celle de Olivier A., qui a déposé une plainte auprès du procureur de Paris contre son oncle Gérard Louvain, producteur phare de la télévision française. Mais aussi contre le mari de ce dernier, Daniel Moine, producteur, que ce dépôt de plainte est pour des faits graves de viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant, de complicité de viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant et de corruption de mineur. Dans son document, Le Monde a pu consulter, le journal Le Monde, que le plaignant se confie et confie avoir été, depuis l'âge de 10 ans, victime de nombreux actes d'agression sexuelle. Alors, agression sexuelle, entendez bien viol, qui se sont aggravés jusqu'à l'âge de ses 14 ans. Dans un premier temps, il avait été victime de caresses, de masturbations, puis après, d'abus beaucoup plus graves, puisqu'il est même été obligé de pratiquer des fellations en la personne de Daniel Moine. Olivier, il a 48 ans, et quand le journaliste l'écoute, il dit qu'il ne raconte pas son histoire, il la revit. Il dessine les plans d'un appartement, de la chambre, l'emplacement d'un lit, les mots s'entrechoquent, il bute sur certains, il limite les mimiques sarcastiques de son oncle Gérard, puis Olivier, avec ses mains, son corps, raconte comment Daniel, le compagnon, lui a imposé des masturbations et des fellations. Dans ses souvenirs, il avait 10 ou 11 ans. Donc, par le biais de son avocat, le 8 janvier, il dépose plainte contre son oncle Gérard Louvain et contre son mari, pour viol sur mineur. Dans le document, Le Monde a pu consulter que le plaignant dénonce des viols subis à partir de ses 10 ans. Comment un homme de 48 ans peut-il déposer plainte aux yeux de la France et que M. Louvain puisse oser parler de chantage de sa part? Je voudrais vous dire et vous demander si vous savez ce que c'est que d'aller déposer plainte quand on est devenu un adulte et qu'on a 40 ou 50 ans. Moi, je sais ce que c'est. Moi, j'ai déposé plainte et j'avais 35 ans. Est-ce que vous savez ce que c'est que de franchir la porte d'une gendarmerie ou d'un commissariat avec la peur au ventre de ne pas être cru, de ne pas savoir comment on va pouvoir raconter l'horreur qu'on a vécue pendant des années, de devoir les raconter dans le détail d'une histoire infamante, humiliante deux fois. Savez-vous ce que c'est? Parce que c'est ça que vivent les victimes, tout en sachant qu'elles n'auront même pas de quoi être défendues, puisqu'il y a prescription. Oui, prescription d'un crime. C'est possible dans notre pays. 20 ans plus tard, 20 ans après ta majorité, prescription du crime. Mais pour les victimes, il n'y a pas de prescription. La prescription n'existe pas. Eh non. Elle reste à vie, ad vitam aeternam. Et si je vous parle de toutes ces affaires, c'est que depuis des années en France, les victimes de pédophilie et d'inceste se taisent, se tairent. Pourquoi? Parce que la France organise depuis des années une omerta sans précédent sur toutes les affaires de pédocriminalité et de pédophilie à tous les niveaux. Et c'est quand même dommage qu'il faille que je trouve un article sur le New York Times, parce qu'en France, on défend les pédophiles. On se demande comment on pourrait les aider. Oui, en France, c'est comme ça. Même l'association L'Enfant Bleu, qui a son petit logo du Teddy Bear, avec les deux bras écartés du corps et les jambes, vous savez, séparées du corps. Un ours bleu. Hein? C'est quoi un ours bleu? Un enfant bleu, c'est quoi? C'est un enfant mort. Alors en France, on nous dit comment on pourrait aider les pédophiles. Mais le New York Times écrit. Et il parle de Maznev. Je vous le dis, le Français sous enquête pour sa promotion sur la pédophilie. Il a été enfermé dans une chambre d'hôtel de luxe. Il s'est enfermé lui-même en Italie. Et le journaliste le rencontre. Il faut savoir ce qu'il en est. Et dit, pour M. Maznev, pendant des décennies, il a été célébré pour avoir écrit, parlé ouvertement de la traque des adolescentes en dehors des écoles à Paris et d'avoir eu des contacts sexuels avec des garçons de 8 ans aux Philippines. Mais il a été invité à l'Élysée par le président François Mitterrand et socialisé avec le chef d'extrême droite Jean-Marie Le Pen. Et il a bénéficié des largesses du créateur de mode Yves Saint Laurent et de son associé, le magnat des affaires Pierre Berger. Monsieur Maznev a été convoqué devant un tribunal parisien en 2020, accusé de promouvoir activement la pédophilie à travers ses livres, et pourrait encourir jusqu'à 5 ans de prison. 5 ans de prison. Pour tout ce qu'il a fait. Mais l'affaire aussi est mise en accusation implicite d'une élite qui a fait avancer sa carrière et a balayé des voies isolées appelant à son arrestation. Personne n'ira à ça en France. Et c'est dans une enquête élargie que les procureurs ont annoncé que la police commencerait peut-être à rechercher des témoins pour retrouver d'autres victimes éventuelles de M. Maznev. Il y en a du monde à arrêter alors. Tous ces gens qui ont favorisé ça, tous ces pseudo-intellectuels, tous ces pseudo-élites qui savent qui fait quoi, partout, dans leur milieu. Le soutien de M. Maznev reflétait une contradiction française persistante, dit le journaliste. Une nation profondément égalitaire, mais avec une élite qui se distingue souvent des gens ordinaires par un code de moralité différent. Un ensemble de règles différents. Ou du moins, croyant qu'il est nécessaire de défendre ceux qui l'ont fait. Oui, c'est ça la France. La chute de Maznev, bien que tardive, a été très rapide. Ses trois éditeurs l'ont laissé tomber. Le directeur du Centre national du livre, il a mis le temps quand même, a déclaré qu'il perdrait, que M. Maznev perdrait une allocation à vie, prestigieuse et rarement accordée. Pendant 30 ans, en tout cas, il en a largement bénéficié. Le ministère de la Culture, paraît-il, réexamine deux distinctions d'État qui lui ont été décernées au milieu des années 90. Mais tout le monde savait, puisqu'il écrivait. Tout le monde savait. Il a perdu sa chronique dans le magazine Le Point. Tous, Le Point, directeur du Centre national du livre, ministère de la Culture, tout le monde savait. Alors évidemment, les procureurs ont ouvert une enquête, et oui, parce qu'un livre est sorti, oui, dénonçant M. Maznev. Alors de sa cachette, M. Maznev a rejeté les accusations d'actes répréhensibles, évidemment. Qui sont-ils pour me juger? Ces associations de vertueux. Comment dorment-ils? Que font-ils au lit? Et avec qui couchent-ils? Et leurs désirs secrets et refoulés? Oui, parce que les pédophiles pensent toujours qu'on est comme eux. Voyez-vous? Alors on dit de lui, bien qu'il soit un des plus grands écrivains français, c'est à vomir. Monsieur Maznev a tout de même profité pleinement de cette tradition. Il a écrit près de 50 romans, recueils, essais, journaux intimes, qui n'auraient jamais pu arriver dans les librairies, dans une industrie plus soucieuse du résultat net. les éditeurs français acceptaient consciencieusement même les journaux qui se chevauchaient parfois pour le publier. Aucun état d'âme. Et ses travaux pourtant contiennent des détails méticuleux sur les personnes qui l'ont aidé et les adolescents ou enfants qu'il a séduits. Pas un journaliste n'en parle. Soudainement, enhardis, les procureurs ont perquisitionné le siège de Gallimard. Oui, Gallimard, prestigieuse maison d'édition, pour saisir les exemplaires des livres. Dans l'affaire qui devait débuter mercredi, les éditeurs et les promoteurs de M. Mazeneuve pourraient être tenus de rendre des comptes avec les livres pour preuve. Nous connaissons les hommes émotionnellement troublés qui ont justifié la pédophilie pour avoir lu les livres de Mazeneuve, paraît-il. Courageux comme tous les pédophiles, Mazeneuve a disparu en Italie. Et c'est à cet endroit que le journaliste le rencontre. Et il lui fait des révélations plus que surprenantes. Il lui demande que son emplacement ne soit pas révélé en Italie. Et il va parler pendant 3h30. Il va même exprimer son étonnement devant le changement culturel de la France, soudain. Et sa chute précipitée. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'il ait violé des cinquantaines, des centaines de gamins et que ce soit un problème pour la France maintenant. Il ne montre évidemment aucun remords pour ses actions passées et ne renonce à aucun de ses écrits. Il a confirmé les passages de ses livres qui décrivent le soutien qu'il a reçu de personnalités puissantes et a fourni de nouveaux détails. Et au moment où il parle, il est amer, il est en colère que d'anciens supporters restent silencieux à son encontre et se soient même distancés ou détournés de lui. Et il ajoute, ils montrent leur lâcheté. Nous pouvons dire prudence, mais c'est plus que de la prudence. Des gens que je considérais comme mes amis. Les amis de M. Mazeneuve ont fait plus que célébrer son travail puisqu'ils lui ont permis, involontairement ou non, de contribuer à protéger des autorités. Oui, c'est ce que dit le journaliste. En 1986, les policiers parisiens ont convoqué Mazeneuve, âgé de 50 ans, pour un interrogatoire après avoir lu des lettres anonymes indiquant qu'il logeait dans son appartement avec Madame Springora qui a écrit son livre, qui avait alors 14 ans. C'est vrai, Madame la sénatrice, vous avez dit un enfant peut avoir envie de coucher avec un adulte. Je ne sais pas si à 14 ans, on a envie de coucher avec un porc de 50 ans. Je vous repose la question. Lorsqu'il s'est rendu à la gare, Mazeneuve avait soi-disant un talisman dans sa poche qui faisait l'éloge du président Mitterrand. Et oui, il avait attiré l'attention de Mitterrand. Quand je vous dis que c'est jusqu'au sommet de l'État. Et si vous pensez que ça a changé aujourd'hui, alors vraiment, vous vous trompez lourdement. Il avait attiré l'attention de Mitterrand 2 décennies plus tôt, après la publication de son premier livre, Le Défi. Il dit, il l'a tellement aimé qu'il l'a donné à ses fils de 15 ans et 16 ans. Et il m'a invité à déjeuner. Bien sûr, on mange tous avec des pédophiles à sa table, n'est-ce pas ? Et Mitterrand a socialisé avec l'auteur en devenir, et il en est resté un admirateur, même après que Mazeneuve ait publié une défense à part entière de la pédophilie, intitulée « Les moins de 16 ans ». Devenu président, Mitterrand invite Mazeneuve à déjeuner au palais présidentiel. Selon l'Institut François Mitterrand, le président a également écrit un article élogieux pour un petit magazine littéraire, Matulu, qui a consacré un numéro spécial à Mazeneuve, le décrivant comme un séducteur impénitent. Mon Dieu que c'est beau, n'est-ce pas, pour un violeur d'enfants. Et M. Mitterrand a écrit que l'auteur m'a toujours étonné pour son goût extrême, pour la rigueur et la profondeur de ses réflexions. Si vous voulez aller vomir, c'est maintenant. Alors c'est aux Philippines qu'il a écrit sur le fait de se livrer à des actes manifestes de pédophilie, principalement avec des garçons prépubères. Parfois, j'avais jusqu'à 4 garçons de 8 à 14 ans dans mon lit en même temps et je m'engageais dans les plus belles relations sexuelles avec eux. Oui, c'est ce qu'il écrit dans son journal, Un galop d'enfer ou Racing Forward. Denis Tillignac, écrivain, a écrit d'une voix critique, solitaire, oui, solitaire, il devrait être en prison. Rédacteur en chef de la table ronde qui a refusé de publier tous les journaux de M. Mazeneuve. Mais non, il n'est pas en prison. Il est accueilli et choyé par le président de la République, Mitterrand. Les critiques, les publics les plus, qui sont survenus en 90 à l'émission de télévision littéraire Apostrophe, alors que l'animateur et les invités discutent du dernier journal de Mazeneuve, Mes amours décomposés, des rapports sexuels avec d'innombrables mineurs, y compris des garçons philippins de 8 à 11 ans qu'il décrit comme une épice rare. La seule étrangère présente, Denise Bombardier, une journaliste québécoise, dénonce sa pédophilie. La réaction de l'intelligentsia française a été rapide. C'est Josiane Savigno, rédactrice en chef d'un supplément littéraire du journal français, Le Monde, réprimande publiquement Madame Bombardier et défend l'œuvre de Mazeneuve. En 2002, M. Girard, l'assistant d'Yves Saint-Laurent, devenu député à la culture du maire de Paris, quand je vous dis que c'est au sommet de l'État, il a fait pression pour que Mazeneuve gagne une allocation annuelle à vie, rarement octroyée par le Centre national du livre, et a déclaré que le directeur actuel du centre, Vincent Monnadet, de journal L'Opinion, que M. Mazeneuve a déclaré qu'un autre allié de longue date, un puissant avocat cette fois et auteur nommé Emmanuel Pierrat, l'a présenté à un autre éditeur qui lui a donné une seconde vie. Et il redit: je ne renie pas une seule ligne, pas un mot, dans une préface de l'édition 2005. Monsieur Pierrat, qui représente maintenant Monsieur Mazeneuve, est également président du Pen Club en France et secrétaire général du musée d'Yves Saint-Laurent. Puis on a Monsieur Busnel, l'animateur de la Grande Librairie, qui a récemment déclaré: les jurys littéraires en France sont totalement corrompus. Tout ceci pour vous dire toutes les connivences et combien notre pays est aux mains de ces pédophiles et dans tout les milieux. Et que si vous attendez des condamnations dans les tribunaux de France et de Navarre, vous pouvez tranquillement vous asseoir dessus. Et puis qu'on arrête aussi de nous vendre, d'accord? Les victimes d'attouchement, les victimes d'abus sexuels, les agressions sexuelles, je vous parle de viol. D'accord? D'actes pédophiles, d'actes pédocriminels. Alors c'est vrai, ça ferait peut-être bien, victime d'attouchement, ah, c'est pas bien ce qu'il a fait, abus sexuel, comment il en a abusé, on sait pas bien. Agression sexuelle, il l'a poussé dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait? Non, on parle bien de viol. Sachez que l'inceste est omniprésent dans les familles, tout autant que la pédophilie est omniprésente dans les écoles, dans les centres de vacances, dans les centres d'accueil, partout où il y a des enfants, il y a des risques de pédocriminalité, des risques de pédophilie. Et dans les familles de l'inceste. Et que tout ceci est protégé d'une grave omerta depuis des années qui font que les juges se taisent. Et oui, les lois, elles sont faites pour les protéger, eux, je vous le redis. Pas pour nous protéger, nous, pour protéger vos enfants. Plus de 10 000 enfants à peu près disparaissent en France par an. Deux alertes enlèvement. Il faut bien qu'on y croie un petit peu. Deux, c'est pas beaucoup. 10 000, ça paraîtrait énorme. Vous allez me dire, oui, mais les policiers, les gendarmes, pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'ils ne savent pas. Parce que chacun travaille dans sa propre gendarmerie ou dans son propre commissariat et qu'il ne sait pas ce qui se passe dans d'autres villes et que eux, ils ont peut-être eu 3 enfants disparus, mais que dans chaque ville de France, il y en a eu 10, 15, 20, 30, 40 et qui font qu'à la fin de l'année, on a 10 000 enlèvements par an sans jamais retrouver les enfants. Alors où vont-ils? Il serait temps que vous ouvriez les yeux dans ce pays. Il serait temps que les gens ouvrent les yeux dans ce pays. Vraiment, il serait temps. Parce que toutes ces affaires qui sont en train de sortir, d'accord? Dites-vous bien qu'il y en a bien plus que les deux qu'on voit actuellement, ou que tous ces sportifs qui ont pu parler, comme Sabine, comme Habib-Bol, comme d'autres. C'est tous les jours, sous nos pieds, dans des écoles. C'est tous les jours dans des familles, des amis de la famille. C'est toujours des proches de chez vous. Prenez bien conscience qu'un enfant ne se défend pas. Et vous savez pourquoi il ne se défend pas? Parce qu'il connaît son agresseur. Parce que vous, vous voyez viol dans la rue. Un homme ou une femme qui vient, ou un homme évidemment, qui viole, d'accord? Avec violence. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le viol avec un enfant, c'est une approche de tendresse. C'est une approche d'amour. On lui dit qu'on l'aime, qu'il est tellement beau, qu'il est tellement gentil. Et ça bascule. Et l'enfant se tait parce que il n'a pas pu se défendre et qu'il pense qu'il est coupable de ne pas avoir pu se défendre de quelqu'un qu'il connaît et dont il n'est pas censé devoir se défendre. C'est la réalité du terrain tous les jours. C'est la réalité des victimes tous les jours. Et je vous le redis, j'estime qu'il y a à peu près actuellement plus de 11 millions de victimes en France, tous âges et tous sexes confondus. Donc il est grand temps, vraiment grand temps, que vous compreniez que notre pays est aux mains des francs-maçons dans tous les domaines et dans tous les métiers. Et qu'il est très important que tout ceci cesse. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Ça me paraissait important de devoir parler de toutes ces choses. Il ne se défend pas parce qu'il a besoin de ses parents. Non, il ne se défend pas parce qu'il est en état de sidération. Voilà pourquoi un enfant ne se défend pas. Il ne se défend pas parce qu'on est en état de sidération, parce qu'on est là, on connaît l'adulte, on l'aime, c'est quelqu'un qu'on côtoie régulièrement, un oncle, un cousin, une tante, un ami de la famille, la nounou, le mari de la nounou, le copain de la nounou, le fils de la nounou. Ces gens-là sont comme vous et moi. Et un jour, quand ils sont seuls avec l'enfant, ils font ce travail de sape. Et l'enfant ne peut pas se défendre. Il ne peut absolument pas se défendre. Maxwell, vous dites, c'est bien de dénoncer tout ça. Vous faites quoi pour y remédier? Eh bien, allez dans les tribunaux. Engagez-vous dans la cause. Engagez-vous avec des associations. Créez votre association. Donnez à Wanted Pédo. Allez à Wanted Pédo. Il y en a d'autres, des associations. Allez dans les tribunaux. Faites pression sur les juges. Il y a des mamans qui témoignent, qui vous expliquent. Encore récemment, j'ai vu une vidéo d'une maman. Engagez-vous. Qu'est-ce que vous attendez pour vous engager? À chaque fois, on me répond, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, allez dans les tribunaux et faire pression. C'est vous qui votez. C'est vous qui ne devriez plus voter. C'est vous qui devriez désobéir. C'est vous qui devriez demander des comptes à l'État. Parce que c'est nous qui payons l'État. C'est lui qui a notre service. C'est notre larbin. C'est pas le contraire. David Alexandre, vous dites des affaires de pédophilie, il y en a depuis des décennies. Magistrats, juges, assos, policiers, gendarmes, avocats, dans toutes les branches. Oui, monsieur. Oui, David. On va accepter encore combien de temps? Dites-moi, combien de temps encore? Combien de temps on va laisser faire? Allez dans les tribunaux, demandez des comptes aux juges. Faites des comités de soutien. Allez dans les tribunaux, demandez des comptes aux juges. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de condamnation? À Picapucine, il y en a partout des francs-maçons. Partout, ils sont partout, partout. Votre mère, votre médecin, dans toutes les campagnes, il y en a. Ils sont partout. C'est une toile d'araignée. Tous les pontes, de toute façon, dans tous les domaines, font partie de la franc-maçonnerie. Tous les pontes, dans tous les domaines. OK? Est-ce qu'il y a des questions? N'y a pas de questions? On va arrêter là. Bonsoir Didier, bonsoir à tous. Sarah, vous dites, ben si, on y pense, tout ça, donnez la peur, on entend, je veux dire votre témoignage, et on entend dans nos entourages et en général, les gens en veulent aux enfants qui parlent, aux adultes qui dénoncent. Ben oui, bien sûr, ben oui, ça secoue un peu, tu comprends, c'est dégueulasse comme truc, coucher avec un enfant, c'est pas beau, préfère pas savoir, hein, c'est tellement mieux le déni, c'est tellement mieux, ça permet d'en violer d'autres, c'est pas mal, et en fait, on préfère pas savoir. Ah non, les enfants, il va falloir se bouger parce que c'est de pire en pire. Ça va péter fort, nous dit Nadège. Ben, écoutez, va falloir, en tout cas, pas que ça pète, mais en tout cas, dans tous les cas, qu'on demande des comptes. C'est ce qui c'est en train d'arriver, hein, je vous dis, puisque ça sort de tous les côtés. Ils peuvent plus les brèches, les colmater. Hein. À un moment donné, il va falloir que ça tombe. Mais il va falloir juger tous ces gens-là, hein, tous ces juges qui remettent les enfants en pédo, parce que nous, on vit ça tous les jours dans les tribunaux. Hein. Mais on va faire un live bientôt là-dessus, vraiment avec des chiffres, avec tout ça. Donc voilà. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Alors, attendez, je relance le. Parce que lui, il s'arrête quand il en a envie. Pourquoi mon cerveau ne me donne que des flashs et de la non-totalité de mes agressions à 15 ans? J'ai commencé à m'en souvenir. Alors, ça, c'est une façon de se protéger. En fait, notre cerveau, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, hein, faut que vous retourniez les voir, mais notre cerveau, en fait, il va se mettre. En situation de, il y a une telle alerte dans votre cerveau, d'accord, qui se met en, il va se mettre en pause en fait. Tac, il va s'arrêter. S'il faisait pas ça, on pourrait mourir. L'enfant pourrait mourir. Tellement l'agression, le stress est énorme. Et donc, il va se mettre en pause. Et c'est pour ça qu'il va devenir dissocié. C'est-à-dire que il va marcher comme à côté de son corps. Moi, j'ai marché pendant des années à côté de mon corps. Donc, en fait, ce qui va ramener un souvenir, ça peut être une odeur, ça peut être un mot, une personne ressemblante, ça peut être une tonne de choses. Donc, c'est très, très important de comprendre, en fait, qu'il y a des gens, par exemple, qui sont dans le déni de ce qu'ils ont vécu. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que la plupart des victimes, les millions de victimes en France sont seules, dépressives, dans un mal-être épouvantable. Parfois, elles deviennent alcooliques, parfois, elles se suicident, beaucoup se suicident. Beaucoup entrent aussi dans le proxénétisme. La prostitution. Mais pas le proxénétisme, pardon. Le déni, la facilité pour tous, Armel, non. Le déni des victimes, c'est pour survivre. C'est une façon de survivre si on n'est pas aidé. Avez-vous vu la pub de français de Welcome the Line ou Neom? Je ne peux pas l'avoir vue parce que je n'ai pas de télé depuis 8 ans. Merci infiniment pour votre réponse. Oui, je ne suis pas dans mon corps, je ne le ressens pas. Andy, oui. Ben oui, voilà, il faut trouver quelqu'un pour vous faire aider, en fait, hein, pour enlever l'état de sidération. Ça, c'est la première chose à faire, en fait. C'est déjà d'enlever l'état de sidération. C'est très, très, très important. Et ensuite, on peut passer au stade aussi. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en tout cas, on peut en guérir. Voilà, ça prend du temps, mais on peut en guérir. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est très important, il y a des vidéos, je crois c'est Pédophilie partie 1, partie 2, partie 3, où j'explique beaucoup de choses. Je pars de mon histoire parce que parler de soi, c'est toujours plus simple que de parler des autres, n'est-ce pas? Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la plupart des victimes sont sans aide, en fait. Sans aide du tout. D'abord, l'État n'en a rien à faire, même quand vous déposez plainte. Et si par bonheur, vous réussissez à aller sur le bureau d'un procureur de la République qui prend en cause votre affaire, dans tous les cas, les victimes sont seules. Elles sont pas aidées financièrement. Personne ne les aide. Faut en avoir bien conscience. Doris, vous dites, mes patients, grâce à tout ce qui se passe, se lèvent et commencent à parler. Ben oui. Le problème aujourd'hui qu'on va rencontrer, c'est que psychiatres, psychologues, la moitié sont corrompus. Je vous le dis tout de suite. Vraiment, je vous le dis. J'ai pas peur des mots. Et qu'il y a très peu de gens, très peu de gens formés pour aider les victimes. Ça, je le précise grandement. Moi, j'ai entendu des choses épouvantables dans l'aide que j'apporte aux victimes. Donc, en fait, c'est très, très important de comprendre comment ça fonctionne quand on est une victime et comment on peut aider les victimes. Il y a des techniques très précises. Pourquoi cette loi d'autoriser l'accès sexuel à 13 ans? Mais parce que ça les arrange, parce qu'il y a plein d'affaires qui sortent. Vous ne voyez pas les affaires qui sortent? Donc, plus on va réduire l'âge, moins on aura de condamnations de ces élites pourries. Tout simplement. Evelyne, vous avez raison, on est très peu de gens formés pour ça. Oui, très peu de gens. Parce qu'il faut comprendre comment ça marche. Il y a des thérapies, oui, il y a plein de thérapies, il y a plein de façons de guérir, et ce n'est pas une thérapie qui fonctionne, c'est d'avoir un panel justement pour aider les victimes. Voilà, Blueberry qui nous dit, c'est bien. J'avais un psychologue avant qui me dit que je fabriquais des souvenirs avec mon mental. Voilà, extraordinaire. Fabuleux, hein. Vous voyez, je mens pas, je mens pas. J'ai entendu des choses avec ces gens-là épouvantables. Voilà. C'est-à-dire, c'est la victime qui est responsable. C'est de sa faute, en fait, ce qu'elle a vécu. Hein, faut qu'elle arrête d'y penser. Pourquoi elle pense à ça d'abord, hein? C'est du passé, il faut oublier, comme on m'a dit dans ma famille. Pourquoi tu n'oublies pas? C'est du passé. Hein, tu avais 10 ans, 9 ans. Pourquoi tu y penses encore? Enfin. Message bloqué? Non, il n'y a pas de message bloqué, David, puisque vous avez pu écrire dans le chat. Si vous étiez bloqué, vous ne pourriez pas écrire.
Il y a un message qui a été bloqué avant.
Il y a un message qui a été bloqué avant. Pourquoi? Parce qu'il a dit
Son
quoi?
discours était litigieux.
Son discours était litigieux. Si votre discours était litigieux, alors on vous supprime. Voilà, c'est comme ça. Ici, vous savez, on ne fait pas dans la dentelle. Hein. On supprime. Voilà. Soyez clair dans vos questions, soyez clair dans ce que vous dites. Soyez très clair. Pas de litigieux. Ça ne nous plaît pas. Et moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Alors, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat tout à l'heure, vous aimez pas les critiques? Non, ça n'a rien à voir avec les critiques. Je sais de quoi je parle, je
Je
sais ce
lisais
que
le
je
chat.
dis, et si ça ne vous convient pas, vous dégagez de la page. Alors, oui, je crée ma réalité, vous avez raison, c'est ça en fait. C'est qu'on ne doit pas faire de vagues. En fait, ça dérange ce qui se passe. Ils sont où les tunnels? Mais partout sous tes pieds, mon gars. Eh oui, tu ignores tellement de choses. Tous se rejoignent. C'est comme ça qu'on fait transiter tous les enfants disparus. Hein. Je vous le dis tout de suite, ils circulent sous terre. Ces gens-là, ils circulent comme ils veulent sous terre. C'est pour ça que vous avez plein d'endroits qui s'effondrent dans le monde. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est leur tunnel qui s'effondre. Muguette, vous dites, moi j'ai été accusée de vouloir de l'argent quand je voulais déposer plainte. Ah ben, si on touche de l'argent quand on est victime, ça se saurait, je pense. Croyez-moi, ça se saurait. Pierre Blanchette a fait une vidéo sur toi. Oui, mais je m'en fous complètement. Réellement, je m'en fous. Un psychologue parisien a osé me dire, vous l'avez provoqué, Véro. Oui, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça. Ah non, je perds pas de temps avec les idiots, Nadège. Non, mais ça, c'est vrai. Hein. Vous savez, je m'en fous. Je ne suis pas là pour faire des abonnés, des vues. Je m'en fous complètement. Non, il ne mérite pas les tribunaux, bien sûr que non. Faut qu'on... Non. À un moment donné, il va falloir faire un grand, grand nettoyage, comme a dit Monsieur Trump. Nettoyer le marais. Croyez-moi, il savait de quoi il parlait. Parce que c'est vraiment le marais. Oui, il y a des tunnels, Radio Dragon, partout, partout, partout. Voilà. Sous Paris, partout, oui. Et qui rejoignent jusqu'à Gap, jusqu'à partout. C'est inimaginable. Oui, les catacombes sont une partie des tunnels, Catherine. Oui, tout à fait. OK. Y a-t-il, alors, Wanted Pedo qui cherche des bénévoles parce qu'ils ont déjà 30 antennes sur la France, je l'annonce, et ils se développent de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent. Je rappelle que Wanted Pedo ne reçoit aucune aide de l'État français parce qu'elle n'a pas voulu justement que ces gens-là leur... Enfin, elle ne veut pas d'argent de ces gens-là. Et donc, elle reçoit que de l'aide et vous pouvez trouver pour donner à Wanted Pedo et à Max qui est bénévole dans l'association et qui a bien besoin de votre aide. J'avais déjà relayé ce message. Avez-vous des questions? Merci, Indomptable. C'est très, très, très gentil. Des tunnels à Paris, sous les métros et trains pour ne rien entendre, mais ils sont partout les tunnels. Ils traversent de part en part la France. Croyez-moi, si 8 mètres sous terre, vous ne risquez pas d'entendre quoi que ce soit, de toute façon. Hein. C'est partout les tunnels, il y en a partout. Est-ce qu'on me met des bâtons dans les roues quand j'interviens? Ah oui, ah ben oui. On vous bloque les vues, on vous bloque tout. Quand vous voulez, quand une victime dépose plainte, que vous l'accompagnez pour déposer plainte, vous attendez un an que le dossier ait pu arriver là. Et puis quand on n'a pas perdu une pièce, ils perdent des pièces, ils perdent des vidéos, ils perdent tout ces gens-là. C'est incroyable comme ils perdent tout. Il n'y a que tes impôts qu'ils perdent pas. C'est incroyable. Par contre, les dépositions, ils les perdent. Ils savent pas ce qu'ils en ont fait. Ils ont perdu la déclaration du médecin légiste. Ils savent pas. C'est tous les jours, ça. Tous les jours, tous les jours. Vous comprenez comment ça fonctionne? Non, mais Aurélie Var, vous me dites, pourrions-nous trouver ces tunnels? Mais on s'en fout. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas cette action-là qu'il faut mener. L'action qu'il faut mener, c'est d'aider les victimes. C'est d'aider les familles de victimes qui se retrouvent seules, broyées par la justice. C'est d'aider les mères qui se retrouvent sans leurs enfants parce qu'on leur enlève leurs enfants et qu'on les remet aux parents bourreaux. Vous comprenez? Donc c'est pour me dire des âneries. Franchement, non. Ah oui, la vérité, elle est crue, hein. Elle est comme ça, c'est une réalité. Nous, on la vit depuis des années. Moi, j'ai vu ce que c'était. En tant que victime, j'ai vu comment ça marchait. D'accord? Donc, voilà. Blueberry, vous dites, mon frère et moi avons été victimes. J'ai vu une des personnes concernées cet été, mais je ne ressentais rien, aucune colère. Donc, je me demande si je me trompe. Mon frère est totalement dans le déni. Alors, c'est très difficile pour une victime d'être en colère. En général, elle a plutôt peur quand elle croise son violeur, en fait. Elle a aussi quelque chose de l'ordre de son état émotionnel est comme paralysé, c'est-à-dire elle s'est mise en stand-by en fait de tous ses ressentis. Voilà. Donc elle est en survivance. Je crée ma réalité qui dit quand je l'ai traqué sur Facebook, que je l'ai signalé, m'a mis une pendaison d'enfant. Facebook laissait des comptes actifs. Oui. Vous pouvez faire ça aussi, les traquer sur YouTube, les traquer sur Facebook, sur TikTok, il y en a énormément. Vous pouvez traquer, c'est pour ça que je dis toujours, ne mettez pas vos enfants en photo sur les sites. Les gens me disent, oui, mais moi, je m'en occupe tout le temps. Oui, mais ils se servent de vos photos, vous comprenez? Et un jour, ils les retrouvent à l'école ou ailleurs, sur le trajet de l'école ou en vacances, mais vous n'imaginez pas, ce sont des réseaux. Ce sont des réseaux qui ont des commandes et ils commandent des enfants de tel âge, les yeux bleus, les cheveux blonds, pour tel scénario et ils vendent ces films 200 000, 400 000 euros. Ça marche comme ça, les réseaux pédocriminels. Oui, les tunnels, c'est une ville sous la ville. Exactement, Lucien, tout à fait. Ok. Corinne, vous dites déjà, ne serait-il pas important d'informer, d'expliquer aux enfants leur droit de refuser l'inacceptable envers toutes ces personnes? Alors, si vous voulez un enfant de 4 ans, de 3 ans, quand c'est son père, vous pouvez bien lui dire de refuser, n'est-ce pas? C'est son père, premièrement. L'enfant, il va falloir lui expliquer ce que c'est. Donc là, pour le coup, c'est vous qui allez faire une effraction dans sa psyché. Donc, il faut l'éduquer où il n'est pas obligé d'embrasser les gens. Où le plus vite possible il est autonome pour se laver, pour s'essuyer, pour s'habiller, pour aller aux toilettes, et lui dire, et bien lui apprendre que on peut donner une poignée de main à l'adulte pour dire bonjour, ou simplement dire bonjour et qu'on n'est pas obligé de faire un bisou à tout le monde qu'on ne connaît pas. Bien lui expliquer que si quelqu'un, s'il sent quelque chose, quelqu'un veut le toucher, il n'en a absolument pas le droit. Mais vous ne pouvez pas tellement aller au-delà et lui expliquer ce qu'est la sexualité à 4 ans ou à 5 ans. C'est très compliqué. Parce que pour le coup, c'est vous qui deviendriez, qui feriez une effraction, dans la psyché de cet enfant, en fait. Voilà. Et les enfants sentent, tout à fait. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Je ne vois pas de questions. On va couper le live s'il n'y a pas de questions. Oui, il faut sortir des secrets de famille, bien sûr, mais il faudrait surtout. Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est que les gens retrouvent, enfin, sachent que c'est pratiquement dans toutes les familles, parce que si on a 11 millions de victimes actuellement, c'est pas sans raison, n'est-ce pas? Et je vous laisse imaginer le nombre de pédophiles, n'est-ce pas? Alors, mais il n'y a pas que Tours, vous me parlez de la ville de Tours. Arrêtez d'être limité comme ça, c'est énervant. C'est toute la France, il y a des tunnels partout. Ils circulent de haut en bas, de large, de gauche à droite, du nord au sud. C'est partout, voilà. Donc, vous le savez, c'est partout. Et les enfants qui sont enlevés circulent à travers ces tunnels, par exemple. Et voilà, faites les tribunaux de France, rejoignez des associations, montez des associations dans tous les départements de France, comme Wanted Pédo. Faites ce travail, quoi. Il y a plein de choses à faire. Les victimes à accompagner, les parents de victimes. Et je vous garantis que si on rentrait à 50 dans les tribunaux ou qu'on se mette devant les tribunaux à 50, je vous garantis que la peur changerait de camp. Je vous le garantis. Me parlez pas de Stan Maillot parce que quand vous saurez qui il est, et vous saurez un jour qui il est. La famille qui ne se parle plus dénie impuissance. C'est mon cas. Moi, je vis sans et puis ça me va très très bien. Vivre avec des gens qui sont dans le déni de ce que vous avez vécu et qui vont à l'enterrement de votre violeur, excusez-moi, vous n'avez pas franchement envie de les côtoyer. Il y a un moment où il faut sortir de l'état de victime, il y a un moment où il faut reprendre son pouvoir, en fait. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, ce qui est important, c'est que je vous explique véritablement comment ils ont pris le pouvoir, comment ils ont enlevé le pouvoir au peuple et surtout comment, par le biais de la franc-maçonnerie, ils ont réussi à prendre ce pays et à en faire une société. C'est-à-dire que nous sommes les esclaves de la société France, en fait. Voilà. Et que cette société, elle fait ses propres lois, ses propres pédophiles, et elle ne les condamne jamais. Voilà. C'est ça qui est important de retenir. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents. Franchement, partagez cette vidéo pour les victimes, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et tous ceux qui veulent s'investir, vous avez l'association de Wanted Pédos. Sinon, je vous encourage à créer la vôtre aussi, hein, aller dans les tribunaux pour chasser les pédophiles, dénoncer ce qui se passe sur TikTok, YouTube et toutes les chaînes. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. À très bientôt. Bonsoir. Bonsoir à tous.